BW. Droits et libertés.
Cette semaine, dans Droits et libertés, nous allons parler des Peuls et de la stigmatisation dont ils font l'objet. Mais nous allons surtout essayer de trouver des pistes de solutions pour penser une sortie de la crise intercommunautaire qui s'ajoute à la violence perpétrée par les terroristes dans plusieurs pays du Sahel. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde.
Les Peuls constituent un peuple présent dans une vingtaine de pays en Afrique de l'Ouest, mais également au Tchad, en République centrafricaine et au Soudan. Une implantation géographique liée aux besoins de troupeaux de zébus et de chevaux que la plupart élevaient à l'origine.
Voici ce qu'on peut lire sur le site de l'association Tabital Poulaku International qui promeut la culture Peul et participe à la médiation entre les communautés sur le terrain. Dans les régions frappées par le terrorisme djihadiste au Sahel, les Peuls sont rapidement assimilés aux terroristes. Beaucoup de leurs concitoyens les accusent, au mieux de soutenir les activités meurtrières des groupes armés en les informant, par exemple, au pire, d'en faire partie. Abdoulaye Diallo, coordinateur du Centre national de la presse Norbert Zongo, à Ouagadougou.
On est en train d'indexer une ethnie comme responsable de ce phénomène, pendant qu'on vous dit que c'est multiple, c'est très complexe. On ne peut pas dire que c'est une ethnie qui est responsable de ça parce qu'on a vu quelques individus sur le faciès, un délit de faciès. Et donc tout ça fait que c'est un cocktail très explosif qui ne permet pas d'avoir la sérénité.
Population estimée à 40 millions d'individus, répartis donc dans une vingtaine de pays, les Peuls sont traditionnellement des éleveurs transhumants qui se déplacent donc au gré des pâtures. Et la cohabitation avec les communautés d'agriculteurs comme les Dogons au Mali ou les Mossi au Burkina Faso est depuis longtemps entachée de conflits pour l'accès à l'eau et aux terres essentiellement. Ces dernières années, les éleveurs nomades ont toutefois été soumis à des taxes arbitraires par les forces de sécurité pour obtenir un droit de passage. Les sécheresses, la politique d'urbanisation et l'agro-business ont contribué aussi à remodeler les paysages et conduit à une crise du pastoralisme. Les éleveurs manquent de pâture pour leur bétail, leurs revenus baissent et ils sont contraints de vendre une partie de leurs troupeaux. Précisons que désormais, de nombreux Peuls sont sédentaires ou semi-nomades seulement, exerçant aussi d'autres activités que pastorales. Ils sont parfois fonctionnaires ou religieux, artistes, commerçants, comme n'importe quel autre ressortissant des pays concernés. Mais depuis quelques années, les Peuls sont victimes de violences physiques qui vont parfois jusqu'au massacre de villages entiers, notamment de la part de milices armées dites d'autodéfense. Alors pourquoi cet amalgame entre Peuls et terroristes? D'abord parce que et Amadou Koufa et Malam Diko, deux importants prédicateurs djihadistes du Sahel, sont issus de la communauté Peul. Et effectivement, tous deux sont parvenus à recruter des combattants parmi les Peuls, surtout des jeunes qui n'avaient pas de perspective. Ces islamistes radicaux profitent à la fois de la pauvreté actuelle de leurs cibles, dans le contexte de la crise du pastoralisme déjà évoquée, et de leur frustration sociale, économique. Ils dénigrent les pouvoirs en place tout en mythifiant le rôle joué par les Peuls et les Tout-Couleurs lors de l'islamisation massive de l'Afrique de l'Ouest au XVIIIe et XIXe siècle. L'embrigadement fonctionne aussi en s'appuyant sur des écoles coraniques hors de contrôle des pouvoirs publics et il conduit à une radicalisation d'une certaine frange de la communauté Peul. Ainsi, des témoignages comme celui de Nouhoum Togo, chef d'un parti politique à Bankass dans le centre du Mali, font état de la présence de Peul parmi les assaillants qui commettent des atrocités dans des villages comme celui de Dialassagou, où plus de 130 civils ont été tués à la fin juin.
Mais ils sont venus, ils ont dit aux gens que vous n'êtes pas des musulmans en langue Peul. Ils ont dit vous n'êtes pas des musulmans. Alors donc, ils ont amené les hommes, une centaine de personnes, ils sont sortis avec eux. À 2 kilomètres, ils ont abattu les gens systématiquement.
Alors, les Peuls, dans leur ensemble, deviennent progressivement des cibles systématiques à la fois des armées nationales au nom de la lutte contre le terrorisme, mais ils sont surtout malmenés par des milices d'autodéfense qui se sont constituées pour battre en brèche les terroristes. Alors, pour mieux comprendre cette dynamique de stigmatisation, mais aussi et surtout réfléchir à des pistes pour en sortir, je vous propose maintenant un entretien avec Daouda Diallo, médecin en centre hospitalier. Daouda Diallo est aussi le fondateur en 2019 du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés à Dédougou, dans la boucle du Mouroun, une région de l'ouest du Burkina Faso.
Sur les routes, souvent, quand c'est un peu, souvent, il est beaucoup plus fouillé, beaucoup plus inquiété par rapport aux autres. Et deuxièmement, aujourd'hui, ils sont stigmatisés comme étant des complices des terroristes. Donc, il y a certains appels à ce qu'elles soient massacrées, tuées, nettoyées complètement pour vaincre le terrorisme. Donc, ça, c'est une manifestation aussi très grave de la stigmatisation. Et troisième fait, du point de vue de l'administration, beaucoup ont des difficultés pour avoir des papiers.
Donc, là, c'est la stigmatisation parce qu'on les chicane, oui. Parce qu'on leur met des bâtons dans les roues. Mais il y a aussi des violences réelles. Il y a eu des tueries.
Des tueries de masse. Plusieurs cas, hein, surtout avec l'implication des civils armés dans le conflit. Mais il n'y a que les villages peuls qui sont complètement rasés.
Mais donc là, il y a des milices, comme les milices Kolwe Ogo, qui arrivent dans les villages pour des opérations de représailles, c'est ça?
En plus de Kolwego, il y a des Dozo, et puis il y a aussi les civils que l'État a recrutés, qu'on appelle communément les volontaires pour la défense de la patrie, et qui aujourd'hui, beaucoup font autre chose que la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils s'attaquent aux communautés peules, ils pillent leurs animaux, les bétails, ils volent leurs biens, ils occupent les terres. Donc ça fait qu'aujourd'hui, parce que ça pousse certains membres de cette communauté à rejoindre les groupes armés terroristes par souci de vengeance, par soif de justice ou pour se mettre à l'abri.
Et alors, vous qui œuvrez au jour le jour à faire dialoguer les communautés, comment est-ce que vous vous y prenez?
Oui, notre objectif, c'est de miser sur la prévention aussi. Au-delà du fait qu'il faut dénoncer quand il y a des cas de violation des droits humains, il faut aussi faire la prévention et c'est de là que nous partons dans des zones exposés au conflit ou qui sont en train d'être touchés. On organise des rencontres entre les leaders, en impliquant les leaders coutumiers, religieux et communautaires, comme les organisations de la société civile au niveau local. On fait des séances de sensibilisation pour un changement de comportement et aussi essayer d'inviter tous les éducateurs à travailler à déconstruire les préjugés et les stéréotypes qui constituent en fait des facteurs de division de nos populations, de nos citoyens burkinabés.
Mais et de la part des autorités, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il faut vraiment revoir, par exemple, toute la politique foncière ou d'accès aux pâtures, par exemple, pour essayer de calmer une des sources de conflit?
De la part de l'État, on a déjà fait des propositions dans ce sens. D'abord, il y a une action majeure. Il faut légiférer sur la question de la stigmatisation. Et il faut prendre peut-être des mesures spécifiques pour un peu équilibrer les choses. Est-ce qu'il est normal qu'une communauté qui est la deuxième du point de vue numérique soit moins représentée dans l'administration, soit moins représentée dans l'armée, dans la justice? Donc, nous trouvons que tout ça, c'est des failles qui peuvent expliquer la vulnérabilité de cette communauté. Donc, voilà pourquoi nous disons que c'est possible de prendre des mesures discriminatoires, une discrimination positive pendant un certain temps, équilibrer un peu les choses afin de renforcer ou réduire la vulnérabilité de cette communauté. Il faut privilégier aussi l'action judiciaire et la protection des droits humains. Pourquoi? Il y a aujourd'hui des dossiers de crimes de sang qui divisent le peuple burkinabé, comme le dossier de massacre Yirgu, de Ban, de Yaga et autres. Donc il faut faire les jugements de ces dossiers et les évacuer. Ça permettra de ne plus répéter ce genre de massacre et ça va interpeller aussi chaque citoyen à ne pas se rendre justice lui-même. L'autre axe que nous proposons, c'est de faire un travail intense pour réduire la vulnérabilité des populations éleveurs en voyant révisant la loi sur l'accès à la terre pour pouvoir délimiter les pistes pastorales ou les zones pastorales, les protéger, les viabiliser et peut-être former les membres de cette communauté à d'autres activités de secteur économique pour pouvoir en réalité les impliquer dans la marche de la nation.
Daouda Diallo est par ailleurs lauréat 2022 du prix Martin Ennals pour les droits de l'homme. Les propositions émises par son collectif, basées sur le dialogue et une meilleure compréhension des besoins réels des communautés, rejoignent la réflexion du sociologue malien Mohamed Amara pour penser la sortie de la crise.
Il ne s'agit pas seulement de faire de la guerre, il ne s'agit pas seulement de gagner une bataille, comme ça se dit par-ci par-là à travers ce que les Maliens appellent la montée en puissance de l'armée, mais il s'agit aussi d'accompagner ça par le retour de l'administration, la visibilité de l'administration locale, mais aussi le fait que les écoles soient réouvertes et qu'il y ait un vrai dialogue. C'est-à-dire qu'ouvrir des possibilités de négociation entre ces différentes communautés, à travers les représentants, à travers les associations, pour ne plus être seulement juste dans le fait militaire, mais aussi être dans le fait social, dans le fait du dialogue. Ça suppose derrière que le Mali renoue le dialogue avec la communauté internationale, avec la MINUSMA, avec les autres pays voisins, parce que le Mali est sous sanctions aujourd'hui, pour concevoir un projet, un vrai projet de sortie de crise qui à la fois combine organisation d'élections démocratiques et transparentes et dialogue avec ces différents acteurs-là, ces différentes communautés, pour savoir réellement ce qu'ils veulent et par conséquent développer des projets de sortie de crise.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Daouda Diallo, lauréat 2022 du prix Martin Ennals pour les droits de l'homme et fondateur du CISC au Burkina Faso. Merci aussi à Mohamed Amara, sociologue malien, pour ses éclaircissements. Si vous voulez podcaster cette émission, eh bien allez sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.